Non, tout est en vécu comme ça, direct. Alors, mes histoires ont effectivement des lieux très différents, des gens très différents. Bon, il y a des choses très très rock'n'roll aussi. Notamment, bon, il y a un récit qui fait 100 pages. C'est un petit peu plus qu'un récit. Mais enfin, c'est un récit, on ne peut pas l'appeler roman, c'est un récit. 17 chapitres, bon, qui se passent d'une aventure qui se passe sur une trentaine d'heures et qui emmène de Paris, enfin qui fait partir de la gare Montparnasse de Paris, qui est donc l'endroit d'où on part pour aller sur la Bretagne, et qui nous fait arriver en Bretagne, et surtout d'une nuit vécue en Bretagne, en plein désert, et à la rencontre du faucheur de la mort. Une histoire fantastique, mais réellement, réellement vécue, et tout ce que j'en dis a été réellement vécu. Et le retour après sur Paname, entre-temps, tout un passage très très rock'n'roll avec bagarre dans un bar, avec enfin tout y est, quoi.
Et Pascal, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure quand j'ai demandé, quand vous lisez, est-ce que vous prenez des notes? Quand vous rencontrez les gens, justement, est-ce que vous prenez des notes tout de suite après?
Non.
Ou est-ce que c'est votre
Non,
mémoire?
non, non. Alors, ce qui s'est passé, voilà. Alors, ça, c'est la question la plus fondamentale pour moi, parce que, en fait, j'ai cumulé toutes ces expériences et je les avais en mémoire, je me les racontais de temps en temps. Et puis est arrivé un moment, vers 43-44 ans, où je me suis rendu compte que cette mémoire, elle commençait à m'échapper, et notamment pour les détails. Et tant que je tenais bien tout dans ma tête, je n'avais pas besoin de l'écrire. C'était mon expérience de vie, je l'avais en moi, je vivais avec, point barre. Et par contre, là, je me suis rendu compte que des choses
Ça
m'échappaient, que
disparaissait.
voilà, que ça disparaissait. Alors, c'est là que j'ai eu un peu, presque par panique, pris la plume, j'écris toujours à la plume, pris la plume, et puis, et des cahiers, Evelan, j'ai ouvert un cahier, et patatrac. Et ça a été, alors le premier truc justement, ça a été cette histoire là avec le faucheur de la mort au milieu. Alors justement, je voulais au départ, je me dis, bon, faut absolument que j'écrive le faucheur. Et puis, en voulant écrire le faucheur, je me dis, bah oui, il faut peut-être que je raconte ce qu'il y a un petit peu avant quand même, ce qui amène au faucheur. Et puis de là, je me dis, ah oui, mais bon, j'étais à Paris, nanana, hop, je raconte sur Paris. Et puis voilà, ça part. Au bout du compte, je voulais écrire quoi? 15-20 pages sur cette histoire. Peut-être 20, je me disais au fur et à mesure, oh 30, puis en fait j'en écris 100. Bon. Sorti de là, bon, ça a été la même chose pour tout le reste, à savoir, j'ai repris l'ensemble des situations que j'avais vécues, je les ai listées au fur et à mesure, et puis voilà, j'ai raconté donc par tranche de vie. J'affrontais mon vide, ma faim insatiable de vagabondage. Route 77, épisode 20, suite du chapitre 9, Bitnik dans l'Ouest profond. Après quelques minutes de route, Botus trépigna d'impatience. Il broncha. À la prochaine, on descend. Bon sang de froid, lui rétorquai-je. Cela l'indifférait. Après tout, moi aussi, parce que, momentanément, je ne sentais plus le froid. Au travers du carreau, la nuit me semblait à midi. D'ailleurs, il neigeait un peu moins. Le chauffeur parut toutefois soulagé de nous déposer. Quelques flocons traînards nous accueillirent. Je ne pus résister au réflexe enfantin d'ouvrir la bouche pour en absorber. Rien ne nous éclairait. Il fallut attendre pour s'habituer à tant de sombre. Par contraste, la neige assombrissait davantage la nuit. Potus me demandait de le suivre. Je le distinguais, ombre dans l'ombre. Il était prudent, bien que sachant où se diriger. À petits pas, nous suivions la route sur le bord du goudron, notre démarche s'assurant peu à peu avec plus de lucidité par accoutumance. J'apercevais des lumières pâles. À côté, un groupement de maisons apparut. Arrivé à l'une d'elles, Botus nous stoppa. « C'est ici que je suis né. » La neige cessa complètement. Une bâtisse se dessinait en gris contre le fond obscur du ciel infini. Un courant d'air nous glaça. Il y avait une petite barrière en bois protégeant un jardinet. Je discernais de la fumée qui sortait d'une cheminée. J'extrapolais sur notre entrée dans la demeure et sur l'accueil supposé chaleureux. J'étais prêt à être aimable envers qui m'hébergerait. Échapper au froid m'importait en premier lieu. « Bon, on y va ?»« Nulle part, non. On va nulle part, on n'y va pas. »« Mais enfin, c'est là que tu voulais qu'on aille, on y est ?»« Oui, on est arrivé. » Mais c'est mon oncle qui habite la maison maintenant et je ne veux pas rappliquer à l'heure qu'il est. Quelle heure t'as ? Ni lui ni moi n'avions de montre. Je n'aimais pas emporter, il avait cassé la sienne, comme dans Easy Rider, la nuit dernière avant de monter dans le train. Travaille et se lève très tôt, bien avant le soleil. Je veux pas frapper à la porte maintenant. Ben, t'es fâché avec lui ? Non, il est spécial. Il penserait que je suis dans une histoire grave pour venir la nuit sans l'avoir prévenu. C'est pas grave ça, tu te fais des idées, flippe pas, allez, on y va. J'enclenche un pas, d'angoissé à devoir rester dehors. N'insiste pas ! Je ne veux pas qu'il me voie comme ça, pas ce soir. Demain matin, ce sera bien, on verra ma tante d'abord et ce sera plus cool. Cette nuit, j'oublie Nadine, j'oublie tout le monde, sauf toi. Bon, ben, il n'y a plus qu'à prendre la route. C'est où le bled le plus proche ? Trop loin, c'est très paumé ici. C'est comme moi, je suis un paumé, un fricos. Je suis paumé où je suis né, dans un coin paumé. Ah, ça nous a fait un petit peu rire. On n'a qu'à marcher et faire du stop. Il n'y a quasiment pas de voiture qui roule dans ce pays, surtout de nuit. Et s'il y en avait une, elle nous écraserait certainement. Ici, ils n'aiment pas les hippies. Ils ont de mauvais souvenirs de chapardage et de filles qui ont fichu le camp. Si tu te fais repérer près d'une maison, ils sont capables de prendre le fusil et de tirer sans t'avertir. Ça craint velu. On va dormir et demain matin, ça ira. Dormir. Mais où ? Tu plaisantes ? Parle moins fort. Viens. Je me tue et le suivis. Passé la maison et les deux, trois autres qui formaient le hameau, il m'expliqua son plan. On va dormir dans l'étable à cochons. Les cochons n'y vont plus, mais l'oncle y laisse du foin dedans. On y aura chaud. Vu le froid qui devenait vraiment très froid, je n'étais pas confiant en ce bonheur auguré par mon compagnon. J'avais même plutôt un pressentiment néfaste envers la longue nuit qui se profilait. nos pas, nos gestes, nos pensées, nos voix, nos mots commençaient à se vivre au ralenti. Notre glaciation était en cours. À suivre. Blog En Marge Forever. À suivre, à suivre, à suivre, à suivre, à suivre.
En Marge.
Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan. Pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont-en-l'Air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan. Que tu sèmes dans le rebord des assassins, et pour ce cœur qui bat quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien.
Qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour le pinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Thank you, Satan.
Pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime, un chien croque-mort du hasard. Pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand poussent dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Pour la péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus. Pour les ballons que tu fais pète dans l'après comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Tout cela est plus encore pour la solitude des rois. Le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, Salon. You are the birdman. Thank you, Salon. You'll make me birdman. Thank you, Salon. Thank you, Salon.
Thank you.
Sakyo Salon. Sakyo.
Nos pas, nos gestes, nos pensées, nos voix, nos mots commençaient à se vivre au ralenti. Notre glaciation était en cours. Route 77, épisode 21, suite du chapitre 9, Beatnik dans l'Ouest profond. Botus s'accroupit. Baisse-toi et éclaire-moi. Il savait qu'à cet endroit le grillage était défaisable. Très rapidement, nous pûmes ramper dessous. Nous marchâmes quelques mètres dans l'herbe mouillée de neige fondante. L'étable des cochons était un petit abri ancien, en vieille pierre. Botus se précipita à l'intérieur, alluma son briquet pour constater ravi que c'était propre et plein de foin. Il était content comme s'il avait trouvé un trésor. « Entre » m'enjoint-il. « Couvert de foin, on aura chaud. Faut pas fumer dedans. » Je pressentais du malaise. Miséreux, nous avons partagé le restant de pain complet. Nous avons regretté de ne pas avoir pris de vin et du fromage aussi. Nous avons été boire au mince filet d'eau d'un robinet proche du petit bâti. Nous avons roulé notre dernier joint avec la boulette de reste, l'avons fumé au seuil de l'étable en observant en face la lune pleine qui se révélait à l'horizon. Je me laissais bien volontiers ouater par une quiétude consolatrice. Finalement, Botus avait peut-être raison. Nous allions dormir pour nous réveiller en bonne forme. Cette impression encourageante ne dura guère. Le sol humide gelait. Enfoui dans le foin, je voulus croire que j'allais m'endormir et pourquoi pas faire un beau grand rêve. Je touchais le livre de Kerouac comme s'il avait pouvoir de talisman. Mais quand mes jambes, puis mon corps se mirent à trembler, je compris que l'autosuggestion n'y suffirait pas. Lorsque ma nuque se crispa et que mes dents claquèrent, je finis par sursauter et m'asseoir. Botus dormait apparemment. Je le soupçonnais de s'auto-convaincre que nous allions passer la nuit là. Je ne tenais plus de grelottement. Je sortis, découvris la lune nettement détachée. J'essayais de m'en faire une compagne en lui murmurant des louanges. Elle éclairait, c'était déjà ça. Accroupi, recroquevillé, je tremblais. Je serrais ma veste de vieux velours sur ma chemise indienne en coton léger, mes seuls vêtements. Je tremblais sans cesse. J'ai allumé une cigarette. J'ai appelé Botus à mi-voix. Il ne me répondit pas tout de suite, mais quand il le fit, il n'insista pas contre mes suppliques. Il apparut debout devant l'entrée de notre refuge de fortune. Il tremblait aussi, moins que moi. « Quelle branque ! Je m'endormais ! T'as qu'à dormir ! » !»« Je ne peux pas dormir, je me casse, il n'y a nulle part où aller !»« Qu'importe, faut que je bouge si je veux pas crever gelé !» Il réfléchit en regardant autour de lui, alluma une cigarette. Son projet de lendemain radieux s'écroulait comme un château de sable assailli par la marée. « T'as raison. Il va faire de plus en plus froid. Je n'y tiens plus non plus. On the road again !» J'ai décoché un grand sourire. Nous repassâmes par le grillage laissé ouvert. Botus le referma soigneusement. il cousait la plaie d'une illusion. Et puis, côte à côte, nous nous mîmes péniblement à marcher. Le sang avait besoin de recirculer normalement. Qu'est-ce que je fichais à avoir suivi ce démon de Botus ? Je me rappelais Kerouac, lu le matin. L'appel d'une vie neuve. Dean devait me laisser tomber sur un trottoir. Qu'est-ce que ça pouvait me foutre ? Quelque part, sur le chemin, des filles, des visions, tout quoi. La perle rare. Nous rentrions dans la rase campagne éclairée abondamment par la lune haute à la circonférence parfaite. Il était mieux de marcher, nous empêchions le froid de nous posséder. Le ciel était découvert et ses étoiles nous clignaient de l'œil. Les fers de nos bottes tintaient d'un rythme médiumnique, d'un blues plongeant dans l'abîme des désolations. Notre tristesse relevait d'un bonheur fondamental, se reconnaître vide, fruit du néant, et être nulle part à triper ailleurs. Prise de conscience de notre vie infime, universelle. En somme, nous nous sentions bien sans aucun sens. À suivre, blog En Marge Forever. À suivre.
En Marge.
Au premier hibou de service à Orly, je me tire, c'est sûr. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est ainsi. Moi, les oiseaux de nuit, je les mets à mon heure. Les fuseaux horaires, je m'en arrange. Sur mon hibou 747, je pars en vacances. Et les vacances, c'est demain. Demain, c'est la mort aux lèvres et le sourire de la Joconde rentrée dans le point de Vinci. Demain, c'est la seule idée valide que je vous concède. Vos constitutions, vos morales, votre café au lait du matin, vos chemises échancrées qui plissent sur le pressing, le premier à gauche dans votre quartier, tout ce qui vous muselle, tout ce que vous adorez, tout ce qui est votre mort quotidienne, tout cela pour moi c'est terminé. Sur les lacs, des chevaux mangent des fleurs fanées. Et leurs photos se reflétant dans les eaux tristes leur reviennent à leur museau tout embrumé. Demande donc une douzaine de chevaux à ton fleuriste. Demain, un mot, un fauteuil désossé, une chanson parlée d'une voix mesurée au métronome des grands vents du nord battant sur la chaussée d'une ville perdue. Une fille extasiée dans un coin de porte et se signant à l'approche du voleur de filles. Une lettre postée trop tôt et que le collecteur du courrier à Paris à 17h30 ne voudra pas te rendre parce qu'il ne te connaît pas. Le tube d'aspirine que tu manges en te grattant la tête et en cherchant de côté un regard fraternel. Cette bouteille d'eau minérale qui ne vient même pas de la terre. Cette auto qui dérape et qui engorge l'autoroute. Demain, au premier hibou de service à Orly, je me tire, je deviens moins un, rien, je suis rien. Le mec que tu regardes ce soir sur la scène, ce mec aux cheveux presque blancs avec sa tête qui ressemble à un trapèze n'est pas là. les chansons qu'il chante, tout ce qui t'arrive dans les yeux et les oreilles, tout cela a été fait, dit et redit depuis longtemps. Le mec que tu regardes, c'est de l'illusion. Demain, c'est la mort figurée. On vous la vend, cette mort figurée. On vous vend cet artiste pâli, sous des projecteurs réglés, soumis. On vous vend, par petits paquets, par petits fauteuils, à des prix acceptables, un artiste qui s'est vendu pour un prix accepté. L'argent, c'est le sourire du désespoir. Demain, c'est aussi le désespoir. Alors, demain tu seras riche, mon camarade, car ce que je te donne n'a pas de prix. Accepte-moi comme je t'accepte. Accepte-moi comme je t'accepte. Accepte-moi comme je t'accepte. Demain, je t'aime.
Prise de conscience de notre vie infime, universelle. En somme, nous nous sentions bien sans aucun sens. Route 77, épisode 22, suite du chapitre 9, Beatnik dans l'Ouest profond. Notre cadence effrénée nous chauffait. Nous dégagions de la buée de nos nez et bouches. D'un coup, nous arrêtâmes net, d'un même cœur. Nous n'avions pas causé depuis notre reprise de route. Qui allait rompre le silence intense et séducteur qui nous capturait dans ses limbes? Nous étions alors loin de tout, de nous-mêmes en vérité, proches l'un de l'autre en frangin du désespoir. Face à face, nous avons pleuré dedans notre regard. Quel mot dire ? L'intelligence de l'homme est venue à notre secours. Nous avons éclaté d'un rire clair dans une expression de folie. Nous avons défié l'immensité nocturne pour ne pas devenir dingue. En titubant, secoués de spasmes d'hilarité inexplicable, nous repartîmes lentement en raclant nos talons. Route 77, chapitre 10, Concert des étoiles. Botus parla. Besoin vital chez lui.
On n'a plus rien à Méfu, plus de Chitos. On aurait pu faire comme une nuit avec Ali.
Un junk pur et dur qui alternait entre la prison et la rue.
Dingue !
30 grammes d'herbe, 30 mètres. On a cru avoir parcouru des kilomètres, mais nous n'avions avancé que de 30 mètres. À chaque joint, on a fait un mètre. On a tellement déliré sur tout. On a refait le monde 3000 fois. Notre vécu y est passé, nos acides, nos shoots, les bagarres, l'amour. On a pleuré, on a ri, on a médité, on a songé à haute voix. Quand les 30 juin ont été consumés, quand le jour s'est pointé, on était mort, vidé de notre substance existentielle, délivré du joug du destin. La lumière cruelle nous a séparés, chacun en proie à son sort. Silence entre parenthèses, pouvoir de suspendre la lourdeur aigre du trip flippant de sa vie, les yeux baissés à terre. C'est avec lui que j'ai fait les meilleurs fixes. Ce qu'il nous faudrait, tout de suite, c'est de la morphine. Avoir des picotements partout dans le corps et être guéri provisoirement de ses douleurs. Celle d'Ali et d'autres. Ali est encore en tôle. Il n'y a que moi qui pense à lui. Même ses parents ne le connaissent plus. On est tous en prison de toute façon. Ali, il s'en fiche. C'est le plus fou des honnards. C'est le plus fort. Personne ne peut le suivre. Putain, pas de matos. C'est dur. On aurait dû prévoir avec toi, il faut charger. Je me mis à rire en pensant subitement à un gros chevelu barbu rencontré dans un festival de musique, au milieu de la foule avec un caddie de ménagères plein de bouteilles de bière qu'ils buvaient l'une après l'autre, sans discontinuer de balancer des vannes saugrenues à tue-tête. Idée drôle, en rapport avec le fait d'assurer en munitions. La 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 la, j'improvisais une mélodie. Tous maudits dans la même nuit. Ma voix était un peu caverneuse. Un concert blues rock s'est improvisé entre nous, chacun y allant de son ton et de ses mots. Chanter nous a occupé un bon moment tout en marchant, presque en dansant, tranquille. Nous singions sur nos phrases. Nous ne manquions pas d'humour, ni de cynisme, de dérision sur notre état et l'état des choses en général. Le froid glacial n'avait pas pris le dessus sur nous. Nous en tirions une force, un certain avantage. Nous bravions la nature, nous affrontions l'hostilité énigmatique du paysage aux larges ombres lunaires. À un croisement, Botus décida de la direction. La route était encore plus morne. Et nous faiblissions dans notre dynamique. Jusqu'à taire nos chants, progressivement. Nous ne marchions plus, nous traînions. À suivre. La vie est belle, le monde pourri. Manu Chao.
La monnaie comme intermédiaire des échanges, c'est quelque chose d'absolument irremplaçable et d'une utilité fantastique. Mais à partir du moment où elle devient le seul centre de construction d'une rationalité, le seul centre sur lequel on construit le calcul économique, alors c'est elle qui devient maîtresse, c'est l'instrument qui devrait servir à une finalité qui devient la finalité. C'est l'homme qui est au service de l'argent et non pas l'argent au service de l'homme. Ben, quand vous avez cette situation, vous avez un monde qui marche sur la tête. Et c'est ce que nous connaissons.
Non. Les plus beaux chants sont les chants de revendication. Les plus beaux chants de revendication. Les plus beaux chants sont les chants de revendication. À quoi ? Les plus beaux chants.
Les bons chants. Les plus bons chants. Oh, les plus beaux chants de revendication. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Les plus beaux chants.
En ces temps où le temps devient une constante que l'on s'approprie ou rejette, on a le temps ou on ne prend pas le temps, il serait peut-être temps de comprendre en sagesse et en sagesse de comprendre que le temps, lui, il s'en fiche de nous. Il n'est pas à notre disposition, et encore moins à attendre que l'on se donne le temps de bien faire dans un monde à refaire. Le penseur nous soumet une formule, nous devons nous faire un allié du temps. Mais quel temps fait-il dans les méandres de la misère et dans la boue des conflits? Pendant combien de temps encore? Ça y est, on est à l'antenne? Bon. On en est où du feuilleton? Progressivement, nous ne marchions plus, nous traînions. Route 77, épisode 23, suite du chapitre 10, Concert des étoiles. Botus s'enflamma soudain.
« Je sais ce qu'on va faire. Où on va aller? Dans le coin le plus perdu du monde, à Côte Kéo. Là où personne n'ose mettre les pieds plus d'une heure parce que la terre y est ensorcelée par d'antiques magies, des rites de la nuit des temps. À Côte Kéo, c'est pareil à Voyage au pays des Tarahumaras d'Antonin Artaud où chaque rocher est vivant. » Faut qu'on trouve du peyote, de la mescaline, éventuellement de la psilo. Une bonne psilocybine peut y faire. Faut des champignons, des bons. On va organiser un concert sauvage de baroque avec 50 freaks. Arrivé à Morbeau, on va passer le message. On fera ce festival dans 3 jours. Ça va être une grande convergence entre 50 paumés et l'univers. Côte Kéo. C'est la porte qui ouvre à la connaissance. Qui l'on est, d'où l'on vient et où l'on va, c'est-à-dire rien et nulle part. Une fois, j'y étais seul, trop saoul. J'ai rien compris, j'ai trop flippé. Faut que j'y retourne, bien chargé. On va le faire, ce festival de baroque pour 50 fuecos. Les meilleurs. Après, on recommencera notre vie. On va devenir une super race. On va se mettre smart pour infiltrer le système. On le piratera. On l'encerclera de feu comme l'on fait à un scorpion pour qu'il se pique. On le détruira. On vivra avec les étoiles.
Ouf. T'as pas plus simple comme programme?
C'est ça, je le sais, je le savais déjà. Je viens de le comprendre. Je viens de flasher. Les flashs, c'est précieux. Il faut les accomplir.
Ouais, mais on est là, au milieu de rien, et ils sont où, les 50 gugus et les musiciens? Tu délires, Bot. On dérive sur un radeau. On va se calmer. Dès qu'il fera jour, on ira voir ton oncle chez toi, tout s'arrangera et ce sera bien comme cela.
Je m'en fiche de ça! Je veux plus y retourner. On y est passé, c'est passé. Je veux pas revenir en arrière. Je veux voir personne. On va tout changer ailleurs. Flippe pas, ce sera cool, je t'assure. En attendant, on va peut-être crever ici. Mais non, plus maintenant, j'ai compris. Je commence à en avoir marre de cette saloperie de nuit. T'avais qu'à dormir. Il faisait bon dans la porcherie. Dis pas de conneries. A pas bougé, ça caillait trop velu. Et puis c'était l'angoisse là-dedans. T'es trop branque. C'est toi le branque. Toutes ces bornes pour se trouver planté dans cette cambrousse dont je n'ai rien à foutre à cause de toi. Même pas fichu de frapper à la porte de ta maison qui est plus ta maison en plus. C'est chez moi. Mais la famille a fait comme ça quand on est parti. Lâche-moi avec cette histoire. De toute façon, t'as encore changé de plan. Et puis, d'ici que le jour se lève, si on le voit se lever. Il préféra ne pas relever la voix. Nous nous sommes bien regardés, nous ne marchions presque plus, nous savions qu'il n'y avait pas de solution au problème d'être jeté sur terre sans raison, à chercher pourquoi. Nous recommencions à sentir le froid qui avait accru d'un coup. Nous étions au cœur de cette nuit d'hiver. Les étoiles étaient des morceaux de glace dont nous craignions une chute imminente. L'instant était déprimant, occultement menaçant. Nos forces et notre rage même s'évanouissaient dans l'infini sans écho. Je pensais à moi. Je me lamentais silencieusement sur quelques souvenirs, quelques malaises. Je mettais en question les choix de ma vie déjà ratés. Je regrettais d'avoir arrêté le football. J'étais un bon joueur, endurant et appliqué. Un copain de mon père, dont le neveu était professionnel au Palais FC, m'avait conseillé d'aller tenter ma chance au Racing Club pour une formation. Alors que j'étais décidé à le faire, une blessure avant saison m'a immobilisé pendant 8 mois. Quand j'ai repris l'entraînement, j'ai joué 2 matchs avec mon ancien club. Je me suis rendu compte qu'il me faudrait beaucoup de travail pour retrouver un bon niveau. Mais surtout, le cœur n'y était plus. Je voyais le monde du football autrement, dérisoire. J'avais envie de découvrir tous les mondes, et non de me cantonner à un monde particulier. Mais qu'avais-je donc fait en fréquentant les marginaux de toute espèce? Où pouvait être l'évasion souhaitée? Cette route de Brethelem interpellait mon doute. Et n'y étais-je pas finalement pour cela, douter? À suivre.
To get away, I'm gonna leave the city. get away. All this fussing and fighting, man, you know I sure can't stay. Now, baby, back and leaving drunk, you know we've got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game and I wanna play. No use of you running or screaming and crying. You've got a home as long as I've got
77, épisode 24, suite du chapitre 10, Concert des étoiles. Le courage de continuer nous abandonna. Nous nous arrêtâmes. Il n'y avait même pas un souffle de vent pour guider nos esprits désaxés. Le froid, manifestation unique de vie, le froid et la mort étaient alliés depuis la nuit des temps. Que cela nous augurait-il? Notre fin était-elle en cause? Éclairé par une lune gibbeuse, Botus paraissait résigné à ce qu'un funeste sort s'abatte sur nos têtes. Le reflet lunaire dans ses cheveux longs emmêlés honorait sa petite silhouette d'un effet spectral que j'interprétais irréel. Allait-il se transformer en loup-garou ou autre monstre ténébreux? Je vibrais comme une bête menacée. La peur m'envoûtait pour me faire perdre le contrôle de mon être atrophié. J'avais intimement l'impression que ces sensations terrorisantes étaient initiées par quelque pouvoir démoniaque gouverné par un maître surnaturel. Botus, quant à lui, me semblait sujet à une terrifiante anxiété. Je dépréciais. « J'ai la trouille, Botus !»« Ouais, ça commence comme ça. » Je crois que je ne vais plus revoir personne. Mes parents, ma sœur, les choses, on va mourir cette nuit. On ne reverra pas Morbeau. Ouais, c'est toujours comme ça. Je veux revoir Morbeau, Botus. T'avais raison, Morbeau, c'est le centre du monde. Je veux y retourner, mais ça craint trop, on n'y arrivera pas. J'en suis presque sûr, ça craint trop dur, Botus. Dis quelque chose. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça fait. Ça quoi, bordel? Ah, ça. Je flippe velu, comme toi. Ses yeux étaient noyés dans un effroi inqualifiable. Il se remit péniblement à marcher, sans conviction. Je fis de même à son côté. Une indicible terreur s'était emparée de nos raisons. Atmosphère lugubre. Mes pensées s'enlisaient dans une encre saturnienne qui devait écrire, en un mythique univers parallèle, un roman d'amour impossible.
La balade s'entachait d'un sentiment morbide, un courant insaisissable de mort, un goût de sécheresse, d'absence d'éléments vitaux. J'avais soif. En quelques mètres, Botus avait bien réfléchi à ce qu'il voulait me dire. Il raconta une histoire. L'histoire.
C'est toujours une nuit d'hiver que ça arrive, sur une route de nulle part comme il y en a beaucoup par ici, comme celle sur laquelle nous sommes. Il y a le froid, le silence, la peur. Et puis on croit entendre un petit bruit. Alors on écoute. On perçoit quelque chose qui s'approche. C'est plein de tintements affolés vers lesquels on regarde. C'est une ombre qui vient sur soi, qui avance de plus en plus vite. Quand cela arrive tout près, qu'on commence à voir et comprendre ce qu'il se passe, il y a un grand rire méchant qui emplit l'espace. On distingue une silhouette au corps d'ombre qui se tient debout sur une charrette entourée de clochettes et tirée par des chevaux noirs lancés au galop. Et on voit une faux dont la lune vive fait luire sa lame tranchante. C'est le faucheur de la mort. Ouf, où t'as dégoté cette histoire ? Enfant, je l'ai entendu souvent, ici même, dans la maison que tu as vue ce soir. Il y avait des veillées où plein d'histoires mystérieuses du pays étaient racontées. Oh, c'est une légende, dis-je soulagé, marqué par la qualité oratoire avec laquelle Botus l'avait relaté. C'est vrai, ici tout est vrai. Les gens ont gardé leur tradition et le faucheur de la mort existe. Pour ceux qui croient à un tas de choses, c'est sûr qu'il existe. Mais personne n'a vu un faucheur tueur. Ou alors il s'agissait d'un fou. T'es vraiment branque. Oh, doucement, m'insurgeais-je. C'est la mort qui frappe quand elle le décide, celui qui s'égare. C'est une histoire symbolique avec des mecs morts de peur, de froid ou d'alcool, peut-être d'étroit. C'est pas ça, non! Moi, j'y crois. C'est la mort qui te choisit. Elle t'envoie le faucheur. J'imaginais qu'en certains cas, on puisse avoir cette vision avant de mourir si sa culture s'y portait. Nous errions au ralenti sous le poids du fardeau de l'angoissante nuit devenant trop pesante. C'est alors que tout bascula. Nous stoppâmes une énième fois. Quelque chose avait retenu notre attention. Un bruit au loin. À suivre.